France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Bernard Tapie va peut-être retourner en prison. C'est en tout cas la position du parquet de Paris. Il a requis hier 5 ans de prison ferme dans l'affaire de l'arbitrage. Un arbitrage face au Crédit Lyonnais, grâce auquel l'homme d'affaires Bernard Tapie avait touché 404 millions d'euros en 2008. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, risque lui 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Il était directeur de cabinet de la ministre de l'économie, Christine Lagarde, à l'époque de cet arbitrage. Ce patron-là est inculpé au Japon pour abus de confiance. Carlos Ghosn est maintenant accusé par Renault de paiement suspect. Le groupe automobile français a fait un signalement à charge en indiquant à la justice un transfert de plusieurs millions d'euros de paiement suspect quand Carlos Ghosn était encore président de Renault. La justice française avait déjà ouvert une enquête sur le financement du mariage de Carlos Ghosn au château de Versailles. Nous reviendrons sur cette affaire dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous parlerons Brexit, puisqu'il pourrait vraiment se faire sans accord. À Londres, hier soir, les députés ont voté contre toutes les options alternatives au plan de Theresa May, un plan négocié avec Bruxelles pour sortir de l'Union. Sans accord, la sortie brute est prévue le 12 avril, c'est-à-dire dans 10 jours. L'Algérie va bientôt tourner la page Abdelaziz Bouteflika, lui le promet en tout cas. Un communiqué annonce le départ du président algérien d'ici le 28 avril, reste à savoir sous quelles conditions. Les protestataires, eux, continuent de réclamer le départ de tout le système autour du président. Jair Bolsonaro, le président brésilien, lui a créé hier un précédent diplomatique. Il est le premier chef d'État en exercice à s'être rendu au pied du mur des Lamentations à Jérusalem. Il y était hier avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une façon de le soutenir à 8 jours des élections en Israël.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. L'Europe est-elle un mythe, un rêve ou un cauchemar démocratique ? Quelles frontières ? À qui profite l'Europe ? À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 tables rondes et d'un dialogue de clôture animé par les producteurs de la chaîne. Venez nombreux, samedi 13 avril dès 10h dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Pour un réveil en douceur à 6h03 et sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le réveil culturel, tous les matins tôt à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne et l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Aujourd'hui je vous recommande une exposition, surtout si vous avez des enfants, mais pas forcément d'ailleurs. Il s'agit de Monstres, Manga et Murakami, c'est au Musée en Herbe, une exposition qui célèbre la culture pop japonaise, ses mangas célèbres, ses yokai ancestraux et ses robots futuristes, mais aussi c'est une expo qui questionne le rapport à la nature et à la mort dans la culture traditionnelle japonaise. Et on peut découvrir dans cette expo une ludique et très colorée relecture de cette culture pop à travers les œuvres de l'artiste contemporain japonais le plus célèbre au monde, Takashi Murakami. La commissaire de l'exposition, Sylvie Girardet, est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
C'est jusqu'au 22 septembre cette exposition. Bonjour Sylvie Girardet.
Bonjour.
Vous êtes aussi d'ailleurs la directrice du Musée en Herbe à Paris qui accueille donc cette exposition Monstres, Manga et Murakami. Murakami, bien sûr, ce n'est pas l'écrivain mondialement lu, mais un artiste pop japonais. On l'appelle même le Andy Warhol nippon.
Oui, absolument. Nippon, c'est important parce qu'effectivement, Takashi Murakami, qui est un personnage mythique, a été assez longtemps fasciné par Andy Warhol. Il a créé, comme Andy Warhol, sa propre factory, qui s'appelle la Kai Kai Kiki. Mais maintenant, il revendique de plus en plus sa personnalité, sa culture japonaise. Et donc,
en appliquant un peu les mêmes méthodes qu'en dit Warhol, dans le sens où il est dans la répétition industrielle de ses œuvres.
Voilà, absolument. Il est un petit peu moins qu'en dit Warhol, mais c'est vrai qu'il a des fleurs qui multiplient. Ces fameuses fleurs, ces marguerites souriantes. Donc ça a été très inspiré par Andy Warhol. Il a été fasciné par justement le côté un peu commercial voulu, souhaité d'Andy Warhol. Donc il crée également des produits dérivés, des ballons de foot. Mais contrairement à Andy Warhol, ses œuvres sont également des œuvres uniques. Il a poussé beaucoup moins loin, disons, le procédé qu'Andy Warhol, pour se retrouver sa culture. C'est un homme qui a fait des études d'histoire de l'art japonais classique, les beaux-arts classiques. Donc il est moins, dans, bien que malgré ses œuvres valent très cher maintenant, il est moins dans la culture de l'argent.
On découvre donc ses œuvres. Mais ces œuvres, c'est pour aussi répondre à toute la culture pop japonaise qui a envahi le monde. C'est-à-dire les mangas, bien sûr, les robots, les monstres, les estampes, bien sûr. C'est-à-dire, il y a les deux, je parle de la culture moderne, mais il y a aussi la culture ancestrale japonaise qui est très présente dans cette exposition.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert, parce que je connaissais très mal la culture japonaise, j'adore Murakami depuis nombreuses années. J'avais envie de faire une exposition avec lui, sur lui. Et c'est un peu compliqué d'abord parce qu'il habite loin, parce qu'il a des projets gigantesques et qu'une petite exposition, quand même, soyons modestes, au musée en air pour les enfants, ça n'a pas été sa priorité. Et c'est vrai qu'en me plongeant dans l'œuvre de Takashi Murakami, ben, je me suis aperçue d'abord, il le prône, il le dit, il l'avance, c'est un fan de manga et de dessins animés. Et donc, en découvrant les mangas, parce que j'en avais lu, mais bon, un petit peu de loin et sans rentrer vraiment, je me suis aperçue que les mangas sont très appuyés sur la culture traditionnelle japonaise. Enfin, beaucoup de mangas, pas tous, parce qu'il y a une multitude de mangas. Et c'est vrai que quand on part de la culture pop de Takashi Murakami, finalement, on retombe dans les mangas et en lisant les mangas, on retrouve la culture traditionnelle japonaise.
Tezuka est très présent. Oui. Et comment qu'il est présent, ne serait-ce qu'à travers son personnage d'Astro Boy, donc ce robot, le petit robot, créé dès la fin des années 50.
Oui, absolument. Alors Astro Boy, c'est le premier héros robot, qui est apparu effectivement dans la bande dessinée, dans le manga. C'est un mi-petit garçon, mi-robot. Il a une histoire très triste, Astro Boy. Parce que son père, celui qui l'a construit, avait perdu un petit garçon et a voulu construire donc un robot à son image. Et puis tout d'un coup, il s'est aperçu que ce robot ne grandissait pas. Donc il l'a vendu à un très cruel directeur de cirque. Donc, qui a fait beaucoup souffrir Astro Boy jusqu'à ce qu'il se retrouve une famille adoptive très gentille. Et le Astro Boy, il est doué d'une force herculéenne et il détruit tous les méchants. Son rôle sur Terre, c'est de détruire les méchants.
Alors, c'est quand même un des premiers mangas avec un robot comme personnage principal, Astro Boy, un peu au centre de cette exposition qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes. D'ailleurs, je vais reprendre votre formule, Sylvie Girardet. Vous dites que c'est une exposition pour les 3 à 103 ans.
Oui, absolument. C'est la philosophie du musée en herbe, c'est de s'adresser aux tout-petits, de prouver qu'une œuvre d'art peut être accessible aux tout-petits comme aux grands, aux personnes qui n'ont pas de bagage culturel, comme les enfants ou d'autres pour différentes raisons, comme aux érudits.
Par exemple, quand vous exposez quelques planches, quelques couvertures d'Astro Boy, d'Osamu Tezuka, vous en profitez dans cette exposition pour parler, bien sûr, de l'histoire vraie d'Astro Boy, vous venez de la résumer d'une manière parfaite, Sylvie Girardet, mais aussi pour parler des robots aujourd'hui.
Oui, absolument. Les robots, c'est vraiment très ancré dans la culture japonaise. Il les retrouve, effectivement. Je parle également des hôtels, de quelques hôtels au Japon où on est accueilli que par des robots sous forme de dinosaures, où l'hôtesse est une femme plus vraie que nature qui vous emmène, les dinosaures vous emmènent dans les chambres. Et, Takashi Murakami, il a créé quand même un personnage qui est un petit peu le personnage phare de cette exposition, qui est Inoshi. Et Inoshi n'a jamais été présenté en France. C'est la première fois qu'il vient en France. Et Inoshi, un peu à la façon d'Astro Boy, c'est un mi-petit garçon, mi-robot, un personnage étrange. Il ressemble un petit peu à E.T., il a quand même les mains palmées, il a un corps à moitié petit garçon, à moitié métallique. Et cet Inoshi, il arrive sur Terre. Et il tombe amoureux et il découvre les merveilles de la Terre. Donc c'est quand même très optimiste. Il va à l'école, il s'intègre et il tombe amoureux d'une petite fille. Il trouve les cerisiers en fleurs magnifiques.
Il a une drôle de tête avec un crâne énorme, des yeux très éloignés l'un de l'autre, son nez, sa bouche minuscule, tout ça on peut le voir dans des petits films, c'est la première fois qu'on les voit ici en France.
Oui, tout l'ensemble, c'est une œuvre, une installation complète de Takashi Murakami qui nous a été prêtée par la collection Pinault. Et c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la sculpture d'Inoshi, il y a le film où Murakami le met en scène, le fait vivre, et puis des grands posters, et voilà, ça fait un ensemble. Et c'est vrai que l'exposition dure depuis un mois ou deux, et on commence à y croire, à ce petit garçon robot qui arrive sur Terre et qui vit, il a une démarche rigolote. Voilà, maintenant il fait partie du musée. Et...
Comment a été conçue cette exposition, Sylvie Girardet? Parce qu'on a parlé d'Astro Boy, de Goldorak, de toute cette culture pop, mais Hokusai est tout aussi présent. Hein, c'est-à-dire la fameuse grande vague d'Hokusai est présente. Il y a des sujets un peu plus sérieux ou plus dramatiques, puisque le Japon c'est aussi un autre rapport à la mort, une autre vie avec la nature et comment accepter les cataclysmes et tout ça. Ça, comment le raconter aux enfants?
C'est un petit peu un challenge, mais finalement ça marche très bien. Alors à chaque fois, nous, chaque première visite d'enfant, on est toujours très très inquiet et attentif parce que on a beau se mettre à la place des enfants, c'est la première démarche, hein, c'est d'essayer de se rétrécir et de se mettre à la place des enfants et en même temps sans infantiliser les adultes qui vont également venir nous voir. Donc il y a vraiment une démarche et de se mettre essayer d'entrer dans la tête d'un enfant et essayer d'entrer dans la tête d'un artiste, ce qui est absolument impossible d'ailleurs, mais d'aller au plus près. Et c'est vrai que Takashi Murakami, ça n'est pas que le pop artiste avec justement les petites fleurs gentilles, les robots intrigants.
Même si c'est très beau, hein, les petites fleurs gentilles,
oui,
colorées.
Oui, c'est très beau, mais c'est vrai, comme vous le dites, que c'est beaucoup plus facile d'accès pour des enfants. Ensuite, il y a les monstres. Alors, les monstres, c'est vraiment la culture japonaise profonde que le mangaka, notamment Mizuki, a fait des recherches très approfondies. Il est allé dans toutes les régions du Japon retrouver ces monstres qui font partie, qui peuvent sortir d'un fer à repasser, qui peuvent se trouver au coin d'une rue.
Surtout que certains d'entre eux sont malveillants. Oh là. Mais pas tous.
Non, pas tous. C'est ça qui est compliqué. Puis selon les situations, selon les régions... Et donc Mizuki a fait leur portrait, il a fait un dictionnaire des yokai, les monstres qui s'appellent des yokai. Et toute l'œuvre de Takashi Murakami est aussi très inspirée par ces monstres.
Édité en France par Cornelius d'ailleurs, et ce sont ces planches que vous exposez. Mais il y a aussi cette idée d'inviter les gens à écouter des légendes d'ailleurs, les légendes sur les fantômes au Japon par exemple.
Oui, et puis alors il y a cette chasse aux monstres, d'ailleurs les petits visiteurs sont des chasseurs de monstres hein, pendant toute l'exposition, et ils arrivent dans la dernière partie qui parle effectivement davantage de la mort, puisque le Japon est un pays quand même qui a subi et qui subit toujours beaucoup de catastrophes, entre la guerre, la bombe atomique, les tremblements de terre, le tsunami, donc il y a un rapport à la mort, comme vous le dites, très présent. Les enfants arrivent armés parce qu'ils ont déjà chassé les monstres dans l'exposition, et ils ont leur petit... on s'aperçoit que Murakami et les artistes de la Kaikaikiki ont finalement une vision très optimiste, disons qu'il y a vraiment une résilience face à la mort, parce que bon, il y a les tsunamis, il y a eu les catastrophes, il y a des tremblements de terre, et puis ils renaissent toujours après la bombe atomique. Et dans les œuvres, donc déjà, il y a la mort, c'est pas la fin de tout quoi pour eux, c'est une période, un passage. Et c'est vrai que dans les œuvres qu'on expose, bon, il y a un cimetière qui est plutôt rigolo, avec une petite fille qui tombe à vélo, mais qui est pas morte. Il y a des petits monstres qui disent elle est pas morte, elle est pas morte. Mais dans ce cimetière, c'est plein de petits démons rigolos. Il y a un fantôme qui a les cheveux de toutes les couleurs, qui a trois yeux, qui avale toutes les mauvaises choses et puis qui recrache des abeilles qui vont faire renaître la nature. Et quand on regarde de près ce fantôme, on s'aperçoit qu'elle a un bobo au coude avec un pansement Hello Kitty. Donc il y a toujours cette forme d'humour et d'optimisme. Et la dernière œuvre de l'exposition, c'est une œuvre de Takashi Murakami. Depuis le tsunami, ils ont quand même été très 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 frappés. Et Takashi Murakami, donc, était effectivement plus un pop artiste, bien que très imprégné de culture japonaise. Il se tourne depuis le tsunami vers le bouddhisme. Et ses œuvres, donc, se rapprochent beaucoup. La dernière œuvre, c'est un entassement de crâne. Donc, a priori, c'est pas très rigolo.
À la manière mexicaine, d'ailleurs, c'est
Voilà. Il y a beaucoup de crânes. Et, avec une forme qui peut rappeler la vague du tsunami. Mais au-dessus, il y a un lion qui est quand même une tête impayable. Et ce lion, il a une pivoine sur la tête qui lui écrase sa crinière. La pivoine, c'est le symbole, pareil, de la renaissance, du printemps. Et puis en plus, il y a plein de petits lionceaux qui l'embêtent sur son dos, qui lui tirent sa crinière. Donc il y a toujours cette ambivalence entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, Takashi Murakami, c'est un personnage très amusant. Il adore se déguiser. Enfin, on ne sait pas trop qui il est, hein. Il peut être très sérieux et puis tout d'un coup partir là. Il est venu visiter le musée en herbe avant d'accepter. Dans une précédente exposition, il est arrivé très sérieux, il disait rien. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à faire des photos, à jouer avec les enfants. C'est quelqu'un de, moi je trouve, très attachant, très surprenant. Et avant d'accepter de faire cette exposition, enfin, moi, je l'ai rencontré, moi, j'étais très impressionnée, parce que pour moi, c'est vraiment un personnage mythique. C'était tôt le matin, il disait rien, on a bu le café, il a regardé les photos, il disait rien. Et puis, tout d'un coup, il m'a demandé, justement, quand vous faites une exposition pour les enfants, est-ce que vous pensez davantage aux enfants ou aux artistes? Et je lui ai dit ce qui est vrai, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les deux, c'est arriver à faire cette connexion et d'essayer d'entrer dans votre personnalité, c'est surtout vous, je lui ai dit, c'est très 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 difficile. Et tout d'un coup, il m'a dit, votre démarche me plaît beaucoup, c'est d'accord, il était très débordé, c'était la Fashion Week, il n'avait pas un instant, je viens au musée, dans une heure je serai au musée, et puis il est venu.
Takashi Murakami, donc cet artiste contemporain qui est vraiment central dans cette exposition destinée aux enfants, mais qui ne déplaît pas aux adultes, surtout ceux qui ont gardé en eux l'enfant qu'ils ont été face aux dessins animés, par exemple, entre autres, ou manga japonais. C'est à Paris, au musée en herbe, monstres, manga et Murakami. Vous restez avec nous, Sylvie Gérardet. J'ai deux ou trois autres questions à vous poser.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
हाथों को तेरे थाम कर रास्ता लगा मैं ढूंढने अपना भी घर कहाँ है तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ तेरी बाहों
दिनों में खो सा गया हूँ, जब से तुमसे मिला हूँ तेरी यादों में खो सा गया हूँ। वहाँ है दिल में यहाँ हर गम मिट जाता है तेरी एक अदा पे, सब कुछ मिल जाता है अगर तू मुस्कुराते। जब से तुमसे मिला हूँ तेरी यादों में खो सा गया हूँ। वहाँ है दिल में यहाँ हर गम मिट जाता है तेरी एक अदा पे, सब कुछ मिल जाता है अगर तू मुस्कुरा दे। मुझको नशा जो तेरा चढ़ा है, मंजिल नहीं जो जाना वहां है, तुझे जहां मैं हूं वहां, तुझे जहां मैं हूं वहां, तुझे जहां मैं हूं।
Le réveil culturel avec Sylvie Girardet, qui est la directrice du musée en herbe, musée qui accueille en ce moment et jusqu'au 22 septembre l'exposition Monstres, Manga et Murakami. Sylvie Girardet, vous avez écrit plusieurs livres pour les enfants qui allient la culture, les savoirs, à l'humour, très souvent à l'interactivité. D'ailleurs, c'est très présent dans cette exposition, l'interactivité. Les enfants ne sont pas là juste pour découvrir des pièces, des photos, des planches de bande dessinée ou bien les œuvres de ce grand artiste qui est Murakami. Non, puisque il y a aussi quelques idées pour les faire participer, pour par exemple mieux leur faire connaître ce personnage de l'artiste Murakami qui est Mr. Dob, D-O-B.
D-O-B, oui. Alors Mr. Dob, oui, effectivement, les enfants dans l'exposition sont toujours acteurs. Ça, c'est un principe de découverte, parce que sinon, même si les médiatrices sont excellentes, voilà, une heure dans une exposition, c'est encore à nouveau la classe. Donc, ils sont acteurs. Donc, déjà, ils partent, eux, avec... ils sont des chasseurs de monstres. Ils sont Kitaro, le petit chasseur de monstres créé par Mizuki. Et quand ils arrivent dans la salle des monstres, ils sont d'abord confrontés aux monstres traditionnels japonais, dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Donc, un qui s'appelle Yakume, qui a 100 yeux, et qui a tellement d'yeux d'ailleurs qu'il ne peut pas vivre dans la journée parce qu'il est totalement aveuglé. Donc il ne vit que la nuit. Et si on raconte un mensonge ou on fait une grosse bêtise, on dit qu'il y a des yeux qui sortent de ce monstre et qui vont vous suivre tout le temps. Donc quand même, ça freine. Et donc ce monstre est très très présent dans la culture japonaise, et Takashi Murakami s'en est beaucoup emparé, et notamment pour son Mr. Dob. Mr. Dob, c'est un petit peu c'est l'alter ego de Murakami. Donc il est très ambivalent, il peut être adorable, comme tout d'un coup avoir plein
de... Il a un sourire carnassier, hein.
Ah oui, les deux. Il peut être très très gentil, et tout d'un coup, il a des yeux qui lui poussent partout, il a des dents pointues, et très souvent sous la même sculpture. Quand on la regarde de face ou de dos, il y a son côté gentil et son côté beaucoup plus inquiétant. Et Mr. Dob, donc il y a toujours un D, un O, un B, quand on regarde, il peut prendre plusieurs formes. Donc on le retrouve dans la dernière salle sous la forme d'une pieuvre méduse. Il est là partout. Et voilà, c'est l'alter ego de Takashi Murakami. Et,
C'est l'artiste qui a ramené, c'est Takashi Murakami qui a ramené ces objets exposés.
Non, ceux-là, oui, ils proviennent de collectionneurs à Paris. C'est plus simple que de faire venir du Japon. Mais il y a la galerie Perrotin, qui est la galerie à Paris de Takashi Murakami, qui nous a prêté aussi des œuvres.
Et quelques pièces.
Et qui fait le lien, parce qu'il est loin, ils ont un décalage horaire. Donc quand même, ils s'intéressent énormément à l'exposition. Donc très souvent, ils nous demandent combien de visiteurs, est-ce qu'il y en a eu plus que pour les précédentes. Il est vraiment impliqué dans l'exposition. Et ce monsieur Dob, donc, qui suit partout Takashi Murakami, de toute façon. Et puis, il y a deux autres personnages emblématiques aussi, qui sont Kaikai et Kiki, qui ont donné le nom à sa factory. Donc, Kaikai, il est blanc, il est gentil. Et Kiki, il est beaucoup, il fait un plus peur. Lui aussi, il a des dents carnassières, des yeux. Ça rappelle un peu les gardiens du temple. Ce sont les gardiens de son œuvre, là. Sa factory, la Kaikai Kiki, qui est énorme, hein, qui est beaucoup plus importante. Il y a 170 personnes qui travaillent. Et voilà, donc Monsieur Dob, on ne peut pas rater Monsieur Dob.
Monsieur Dob est bien sûr une pièce récente, c'est le Japon moderne, c'est le Japon d'un artiste contemporain, Takashi Murakami, pour rappeler une fois de plus son nom. Mais dans cette exposition, comme s'il n'y avait pas de rupture temporelle, on peut se retrouver face à cette œuvre qui date d'il y a presque 200 ans et que tout le monde connaît, c'est-à-dire la vague d'Okusai.
Oui, mais la vague d'Okusai, c'était déjà un tsunami. Donc on voit un tout petit bateau et on voit déjà l'importance que ça avait dans l'œuvre, dans les artistes japonais. Ça les marque tous, à toutes les générations. Et il y a une grande œuvre également dans le musée. Là, on a parlé du cimetière, des fantômes. Mais il y a une grande œuvre d'une artiste de la Kaikai Kiki. Yatakano, qui est le royaume de Mu, le royaume englouti, donc qui est à la fois, c'est à la fois forcément à la suite du traumatisme des tsunamis et en même temps d'une vieille légende d'un royaume, d'ailleurs c'est très intéressant, le royaume englouti, c'est l'Atlantide, c'est Mu au Japon.
Mais là c'est avec des monstres marins.
Ah oui, il y a des monstres marins, il y a la reine, elle a une grosse méduse énorme sur le haut du crâne, elle est sur un cheval marin imaginaire bien sûr, ils ont tous des gros yeux noirs. Mais il y a également des archéologues qui recherchent le royaume de Mu au Japon. Et récemment, on a découvert un vestige archéologique très étonnant, qui n'est pas du tout de l'architecture japonaise. Donc, c'est à nouveau, c'est un peu comme le Yeti chez nous, le royaume de Mu, est-ce qu'il n'a pas réellement existé?
Alors, ça part d'une culture pop, puisque c'est la culture de la bande dessinée japonaise, des dessins animés japonais, et pourtant, on arrive à des œuvres d'art, on arrive aussi à des questionnements sur la vie, la nature, les catastrophes, la mort. Tout ça est dans cette exposition Monstres, Manga et Murakami. C'est jusqu'au 22 septembre au Musée en Herbe. Merci beaucoup Sylvie Girardet d'être venue nous en parler.
Merci à vous de m'avoir invitée parce que c'est un vrai plaisir d'en parler. Moi, je suis habitée par cette exposition.
Merci.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque Nationale de France et le Centre National du Livre présentent, en lisant, en écrivant, une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 9 avril à 18h30, retrouvez Mario de Muraille, grande figure de la littérature pour la jeunesse, auteur de 90 livres dont Oh Boy ou encore Miss Charity. Une rencontre animée par Louise Touret. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Le 7 avril 1994 débute le génocide des Tutsis au Rwanda. Il fera 800 000 victimes en 100 jours. Printemps 2019, 25 ans après, à quoi ressemble aujourd'hui le Rwanda? Comment s'est transmise la mémoire du génocide? Quelles traces dans les corps et les esprits?
Il n'y a plus que des ruines.
Enquête documentaire, témoignage, reportage, sur France Culture, semaine spéciale, 25e anniversaire du génocide rwandais, à retrouver sur franceculture.fr, en partenariat avec Courrier International.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les députés britanniques rejettent toutes les solutions alternatives du Brexit de Theresa May, mais ils ne veulent pas du sien. Impasse encore à Londres, à 10 jours d'un éventuel Brexit dur, nous irons sur place. Vous entendrez ensuite un constitutionnaliste à propos de la démission annoncée d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Lui demande à ce que la constitution du pays soit réécrite. Carlos Ghosn dans la tourmente en France, après le Japon. Renault s'interroge sur des versements de plusieurs millions de nous y reviendrons. Et puis, zoom en fin de journal sur un sujet encore tabou dans le milieu sportif, les violences sexuelles dans le sport. Un colloque est organisé ce matin à ce propos en région parisienne. Cellule de crise à Downing Street ce matin à Londres, à 10 jours du Brexit. Theresa May va discuter pendant 6 heures avec les principaux ministres du gouvernement, discuter pour tenter de trouver une solution à l'impasse actuelle. Si aucun plan ne se dessine d'ici le 12 avril, le Royaume-Uni risque de sortir de l'Union européenne sans aucun accord et pour l'instant, rien ne se dessine. Hier soir, les députés britanniques ont de nouveau rejeté les différents scénarios qui leur étaient proposés, Antoine Gignot.
Une nouvelle fois, les scénarios s'écroulent les uns après les autres. Organiser un deuxième référendum, c'est non. La possibilité d'annuler le Brexit, c'est non. Le maintien dans le marché unique, c'est encore non. Seule l'idée d'une union douanière semble un moment capable de rassembler les députés, mais elle est finalement écartée à 3 voix près. Mon parti refuse de faire des compromis, lance Nick Bowles, auteur de l'une des propositions qui quitte avec fracas le clan conservateur. Ambiance cour de récréation aussi chez les travaillistes. Jeremy Corbyn tente de réclamer un énième scrutin pour voir si ça ne se passerait pas mieux la prochaine fois. Et pendant ce temps, les Écossais fulminent. Un jour, vous verrez, on prendra notre indépendance. Au milieu des cris et du tohu-bohu, le gouvernement ne change pas de discours et présente toujours l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles comme la seule alternative à une sortie chaotique de l'Union européenne. Reste à savoir si la Première ministre peut prendre le risque d'organiser un quatrième vote sur son texte sans déclencher l'explosion du Parlement. Plusieurs dizaines de conservateurs lui demandent désormais ouvertement dans les médias de quitter Downing Street.
Il annonce quitter le pouvoir le 28 avril prochain, au plus tard. Abdelaziz Bouteflika démissionnera bel et bien. Voilà ce que disait hier un communiqué de la présidence algérienne. L'annonce pourtant pourrait ne pas suffire à calmer la contestation populaire qui dure depuis un mois et demi maintenant. C'est tout un système que les Algériens veulent voir disparaître. Plus qu'une élection avec les mêmes élus dans quelques mois, il faudrait donc, selon un constitutionnaliste, une assemblée constituante. Ce constitutionnaliste s'appelle Massensen Cherbi. Il propose de changer la loi fondamentale et il s'en explique.
La constitution algérienne prévoyant des pouvoirs totalement exorbitants pour le président de la République, le nouveau président qui serait élu, y compris démocratiquement, disposerait quasiment de pouvoirs de dictateur. Il faudrait appeler à une constituante qui déciderait déjà s'il y aurait des élections présidentielles à venir ou pas. Je rappelle qu'en Allemagne ou en Suisse ou en Italie, de grandes démocraties, il n'y a pas de président de la République élu au suffrage universel direct. Donc, appeler plutôt à une constituante, effectivement, puisqu'avec la constitution actuelle, finalement, nous tournons en rond. Elle a été faite par le régime et pour le régime. Et la réunion d'une constituante permettrait un réel processus démocratique de voir le jour.
Le constitutionnaliste Massensen Cherbi, interrogé par Thibaut Cavaillès. La Cour suprême du Venezuela, contrôlée par le régime du président Nicolas Maduro, la Cour suprême a demandé hier la levée de l'immunité parlementaire de Juan Guaido, chef de file de l'opposition au Venezuela. Hier également, le président Nicolas Maduro a changé de ministre de l'énergie alors que les coupures de courant s'enchaînent toujours dans le pays. Boeing doit faire mieux. Les autorités américaines demandent à l'avionneur de revoir les modifications apportées à son système anti-décrochage dans ses appareils 737 MAX. Ce logiciel est mis en cause, rappelons-le, après les crashs de deux avions en moins de 5 mois. Quand Carlos Ghosn est pointé du doigt par Renault une seconde fois, c'est ce qui arrive en ce moment, puisqu'après l'affaire du mariage à Versailles, le groupe automobile fait un deuxième signalement à la justice française concernant son ancien patron. Il s'agit cette fois de versements suspects de plusieurs millions d'euros, des versements faits par Carlos Ghosn sur le compte d'un partenaire de l'Alliance au Moyen-Orient à Oman. Les explications de Maxime Debs.
Entre 2011 et 2016, Renault a, comme Nissan, versé pour plusieurs millions d'euros à la société chargée de distribuer les véhicules de l'Alliance dans le Sultanat d'Oman. Société qui intrigue depuis plusieurs semaines déjà les Japonais. C'est d'ailleurs Nissan qui a renseigné Renault. Mais de là à imaginer que Carlos Ghosn ait pu tirer bénéfice d'une double comptabilité, son avocat, maître Jean-Yves Leborgne, sort le bouclier.
Il n'y a pas de différence entre les comptes de Renault et ceux de la présidence. Il peut y avoir une réserve qui est laissée à la discrétion, la décision du président. Cela n'exclut pas que d'autres personnes sachent que ces paiements ont lieu, en connaissent les raisons et soient à même, si par extraordinaire, ces versements n'étaient pas fondés, de le faire savoir.
L'argumentaire est donc celui-ci. Aussi puissant était-il, Carlos Ghosn ne pouvait pas faire n'importe quoi. Pour les médias nippons, l'argent qui transitait par le Moyen-Orient lui aurait notamment permis d'acquérir un yacht pour lui et sa famille. Méfions-nous des emballements de la sorte, prévient son avocat, qui ne voulait hier soir pas commenter davantage dans l'attente d'en savoir plus sur cette nouvelle affaire accablant son client.
Les réquisitions au procès de Bernard Tapie. Le parquet de Paris, hier, a demandé une peine de prison ferme, 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'homme d'affaires jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics. Cela fait suite à l'arbitrage à 403 millions d'euros avec le Crédit Lyonnais. Une fraude d'une singularité particulière pour les procureurs. Les avocats vont plaider aujourd'hui. Emmanuel Macron a-t-il entendu les professionnels et les élus à propos de la maternité de Creil dans l'Oise? Lors d'un déjeuner la semaine dernière, le chef de l'État a en tout cas surpris l'auditoire en critiquant à demi-mot la fermeture de cette maternité, fermeture décidée par l'Agence régionale de santé au profit de l'établissement de Senlis à 12 km de là. Paul Sébron a dirigé la maternité de Creil pendant des années. Il est aujourd'hui à la tête de son comité de défense et il se réjouit donc des propos présidentiels. Paul Sébron.
Le président de la République a répondu que les positions qui étaient prises à propos des fermetures avaient parfois une origine technocratique, enfin, et qui ne tenaient pas compte des réalités de terrain. Voilà. Et donc, il confiait au préfet le soin de remettre en route une réflexion à ce sujet. Voilà où nous en sommes. Parce qu'on pense principalement aux bébés, ce qui est important, bien sûr. Mais aussi, il y a pour les mamans des pathologies qui justifient les conseils des médecins qui appartiennent à différentes spécialités et qui n'existent pas actuellement du tout à l'hôpital de Senlis. Mais aussi, il n'y a pas de transport en commun entre Creil et Senlis, aucun. Vous imaginez ces difficultés dans lesquelles s'est enferrée la direction. C'est invraisemblable, cette situation. C'est unique en France, hein. En dehors de Paris, il n'y a pas de maternité de niveau 3 qui est fermée.
Une maternité de niveau 3 à Creil, donc, qui couvrait jusque-là 150 000 habitants. C'était Paul Sébron, interrogé pour France Culture par Tara Schlegel. La fermeture des services publics, c'est un thème qui a animé le grand débat national pendant quelques semaines, un grand débat voulu par l'exécutif. Aujourd'hui et demain, les discussions se feront à l'Assemblée nationale, au menu du jour dans l'hémicycle, transition énergétique, fiscalité et finances publiques, et ce malgré le scepticisme de l'opposition qui n'y voit pas l'intérêt. Du débat encore, cette fois avec les professionnels du sport et sur un thème bien précis, les violences sexuelles, car la libération de la parole a encore du mal à se faire dans le milieu sportif. Si les associations notent un frémissement, elles organisent tout de même aujourd'hui un colloque en présence de la ministre, Roxana Maracineanu. Théo Conscience s'est demandé pourquoi les sportifs tardent tant à s'exprimer sur le sujet.
Comment expliquer l'omerta sur les violences sexuelles dans le milieu sportif? Avec l'association Comité Éthique et Sport, Maître Laure de Nervaux accompagne juridiquement des athlètes victimes d'agressions ou de viols. Elle pointe qu'avant de pouvoir briser le silence, ces personnes doivent d'abord prendre conscience de ce qui leur est arrivé.
Ce sont effectivement des gens qui sont victimes de ces agressions dans un cadre sportif, donc normalement soit une détente ou peut-être une passion. Donc par essence, elle n'a pas pour objet d'être victime d'une agression quelconque. Donc il y a un certain temps pour se rendre compte que ce qui se passe là n'est peut-être pas normal et comment gérer la situation.
Une prise de conscience d'autant moins évidente que le milieu sportif est aussi marqué par le culte de la performance. Véronique Lebar est la présidente du comité éthique et sport. Elle apporte aux victimes une aide psychologique. Pour cette ancienne médecin du sport, la devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort » porte en elle le germe du silence des victimes.
C'est une phrase qui berce tous les sportifs. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette phrase ? Elle dit qu'il faut tenir pour la victoire, pour la médaille. Et ça, je pense que c'est capital. Parce que très souvent, les sportifs prennent la violence sexuelle ou la maltraitance comme un xème challenge. Ils le vivent et c'est en même temps une façon de le banaliser, de le rationaliser, un déni.
Pour empêcher cette banalisation, le comité éthique et sport accompagne les victimes mais fait également des formations auprès des dirigeants et des encadrants sportifs car eux aussi ont un rôle à jouer dans la fin de cette omerta.
Et à l'occasion du colloque aujourd'hui, une nouvelle mesure sera présentée. Les bénévoles dans une association sportive, les bénévoles devront présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir être en contact ensuite avec des mineurs. Le temps s'annonce perturbé ce mardi, voire orageux. Quasiment toutes les régions seront touchées par la pluie et les grisailles. Les températures ce matin restent plutôt stables avec 11 degrés à Nantes et Lille, 14 à Paris, 16 à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. La justice, les droits, l'égalité, voici de grandes notions de philosophie politique qui sont à l'ordre du jour du débat public dans le climat social que nous connaissons, Jacques.
Oui, oui. Et Philosophie Magazine consacre un dossier à cette question. Qu'est-ce qu'une société juste ? La théorie de la justice de John Rawls est au cœur des discussions. Martin Legros en rappelle les grandes lignes. Depuis Aristote, le juste est ce qui se conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité. Et le jurisconsulte romain Ulpien précisait que la justice consiste à rendre à chacun son dû. La pensée utilitariste, longtemps dominante aux États-Unis, fait de l'utilité commune, soit le plus grand bonheur du plus grand nombre, le critère décisif au risque de bafouer les droits de la minorité. C'est pourquoi Rawls oppose à cette conception l'idée que la justice est une valeur supérieure au bien-être collectif. Chaque personne possède une inviolabilité, écrit-il, fondée sur la justice qui, même au nom du bien-être de l'ensemble de la société, ne peut être transgressée. C'est là qu'intervient sa métaphore, sa fameuse métaphore du voile d'ignorance. Pour réaliser cette idée de la justice, nous devons faire comme si nous ignorions tout de notre position sociale ou de notre condition physique, ce qui garantit que personne ne sera avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales. Et dans la mesure où nous ignorons quelle sera notre place dans la société, nous serons spontanément enclins à choisir des principes soucieux des plus défavorisés puisque nous pourrions en être. Pour le philosophe, les inégalités socio-économiques sont justes si et seulement si elles produisent en compensation des avantages pour chacun et en particulier pour les membres les plus désavantagés de la société, d'où ces trois principes, une égale liberté pour tous, l'égalité des chances et la redistribution des richesses. Et sur la méritocratie, Rawls formule cette objection, personne ne mérite, ses capacités naturelles supérieures ni un point de départ plus favorable dans la société. Autrement dit, je ne suis que le dépositaire de mes talents et je n'ai pas de raison morale à en revendiquer les fruits. L'hypothèse du voile d'ignorance a suscité de nombreuses critiques. On lui a reproché, à son corps défendant, de ne refléter que le point de vue du mâle blanc dominant et parce qu'elle ignore les situations particulières, de contribuer à l'invisibilité des discriminations. Pour la figure... la philosophe Magali Besson, c'est en partant des injustices qui existent déjà que les agents pourront mieux formuler des normes de justice susceptibles d'avoir des effets réels sur l'émancipation des conditions. Mais le droit et la justice peuvent-ils jamais coïncider complètement? S'il est vrai, comme l'affirmait l'historien du droit romain Rudolf von Jering, que l'intérêt est le foyer pratique du droit dans le sens subjectif et qu'il ne représente par conséquent que la défense des intérêts particuliers dans une logique de classe, qu'en est-il de la notion de justice? C'est la question ouverte par Paul Audy dans son dernier livre publié chez Galilée sous le titre « Réclamer justice ». Comme on peut le voir aujourd'hui encore, l'exigence de justice dépasse l'ensemble des normes juridiques existantes et dans cet écart entre le juste et le légal, c'est tout l'espace de la légitimité qui se libère, devant laquelle la légalité est censée s'inviter à comparaître. Le philosophe cite ce passage de droit naturel et dignité humaine d'Ernst Bloch. Lorsque les maîtres blancs des États sudistes se sentent en veine de justice, tous les noirs se mettent à trembler, et jamais aucun prolétaire ne fut en bonne main lorsqu'il eut affaire à l'instinct de classe juridique des jurés petits bourgeois. Bloch évoque le « j'accuse » d'Émile Zola et sa façon d'utiliser le droit positif comme s'il se fût agi du droit naturel ou d'une justice universelle dans cette marge indécise de la légitimité ouverte par le désir de justice. Commentaire de Paul Audy, une justice universelle doit se préoccuper en priorité de refermer l'abîme des inégalités, tant il est vrai, comme l'a montré Rousseau, qu'il n'est pas de liberté sans égalité, ni non plus de fraternité sans l'une et l'autre conjointement. Rousseau tient l'égalité pour une aspiration innée de l'âme ou du cœur, écrit Pierre Bergugno dans le dernier opuscule de la collection Tract chez Gallimard, faute d'égalité. Jusqu'à ce jour, en effet, aucune des initiatives suscitées par la passion de l'égalité n'a abouti. Pourtant, comme le soutenait Pierre Bourdieu après Durkheim, l'inconscient n'est pas, comme l'avance Freud, l'infantile en nous, mais l'histoire présente tout entière dans l'objectivité et la subjectivité des agents qui font l'histoire. C'est pourquoi l'écrivain porte son long regard sur la persistance jusque dans les formes les plus contemporaines de la contestation, en pleine crise du capitalisme et de la représentation politique, de ce rêve égalitaire qui nous est propre. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, on revient sur le conflit israélo-palestinien.
C'est ça, avec des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza, samedi à la frontière avec Israël, pour marquer le premier anniversaire de la marche du retour, cette campagne de manifestation animée par le Hamas pour marquer les 70 ans de la création de l'État d'Israël et l'exode palestinien consécutif, la Nakba. Marche calme, tout le monde l'a remarqué. Pas de bain de sang. Alors le Hamas contrôle l'enclave, contrôle-t-il aussi le mouvement? On en parle avec vous, Laïla Sera, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue, vous êtes chercheuse associée aux séries Sciences Po, auteur du Hamas et le Monde au CNRS 2015, accalmie et puis même détente puisqu'Israël a rouvert dimanche ses deux points de passage avec la bande de Gaza. L'État a levé aussi des restrictions de circulation aux navires de pêche gazaouis. Est-ce que c'est pas déjà une petite victoire pour le Hamas?
Disons qu'il y a un cycle de négociations qui s'est ouvert ces derniers mois au Caire entre les différentes factions palestiniennes et Israël pour, de la part de ces factions palestiniennes, obtenir un certain nombre de demandes. Vous avez parlé de l'extension pour les pêcheurs, donc ça a été obtenu. Il y a aussi, parmi les demandes palestiniennes, l'ouverture des points de passage qui séparent la bande de Gaza d'Israël. Donc ces demandes ont été approuvées par les Israéliens, ce qui prouve bien que finalement les Israéliens, ici, en pleine période électorale, cherchent finalement à éviter l'affrontement, puisque l'objectif principal là pour Benjamin Netanyahou, c'est d'être réélu, donc il ne veut absolument pas déclencher une guerre avec la bande de Gaza. Et pour les factions palestiniennes, c'est une micro-victoire, dans la mesure où c'était des demandes déjà qui avaient été formulées dès 2014, qui avaient été d'ailleurs obtenues en 2014 lors de la trêve qui avait mis fin à l'opération Bordure Protectrice, et qui finalement sont obtenues de nouveau. Donc finalement, le Hamas ne fait qu'obtenir ce qu'il avait déjà obtenu en 2014. Donc oui, on peut en ce sens parler d'une micro-victoire.
Et une partie qui était prévue dans les accords d'Oslo, je crois, comme cette extension des zones pour les pêcheurs. Alors Quel bilan est-ce que vous feriez de cette marche du retour depuis un an, des manifestations frontalières avec un coût humain chiffré, là, selon le ministère de la Santé à Gaza, je crois, à 262 tués, dont 35 mineurs d'après l'ONU. C'est quand même très important ou c'est supportable, disons-le comme ça, pour le Hamas et pour la population?
Non, évidemment, c'est très important. D'ailleurs, le nombre de victimes a fait grossir le mouvement et la mobilisation, puisque d'ailleurs, on peut parler d'un tournant le 14 mai dernier, en 2018, lorsque les Israéliens avaient donc tué une cinquantaine ou 60 Palestiniens, je crois, ce jour-là, où ils reconnaissaient l'ambassade américaine en Israël, l'a déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, je crois que si on veut établir une sorte de bilan provisoire, des un an de cette marche, on pourrait tout simplement dire qu'au départ, ce mouvement était alors spontané. On a parlé de mouvement spontané, certes, il a été spontané. C'est un mouvement qui émane de la société civile, mais qui, dès le départ, était connecté aux politiques. C'est-à-dire que dès le départ, vous aviez le Haut Comité de coordination de la marche du retour qui rassemble l'ensemble des factions politiques palestiniennes de Gaza, qui coordonnait ce mouvement, tout simplement parce que ce mouvement nécessite une coordination, un soutien matériel pour tout simplement déplacer les gens à la frontière, aux différents points de frontière, que ce soit terrestre ou maritime, puisqu'on en parle moins, mais tous les mardis, il y a aussi des rassemblements le long des frontières maritimes. Et que progressivement, je crois que ce qui est assez notable, c'est que dernièrement, on a eu donc l'ouverture de canal de négociation entre les factions palestiniennes et Israël au Caire, et que progressivement, donc, ce mouvement de protestation, qu'on appelle la marche du retour, s'est indexé aux négociations et aux discussions pour parler du Caire. Pour le dire en deux mots, donc, quand ces négociations allaient bon train et que les factions palestiniennes avaient l'impression qu'elles allaient obtenir quelque chose, des concessions de la part d'Israël, et ben le mouvement, la nature de la protestation, disons, évoluait dans la mesure où vous aviez beaucoup moins de jeunes qui allaient à la frontière lancer des pierres contre l'armée israélienne de l'autre côté de la barrière. Vous aviez une protestation qui prenait plutôt une allure bon enfant, disons, avec des chants, des jeux, et puis donc une tenue assez loin finalement de la frontière terrestre. Alors que dans le cas où les négociations et les pourparlers piétinaient, on va dire, au Caire, eh ben, la nature de la protestation tout d'un coup évoluait vers quelque chose de... Alors, les Israéliens considèrent que ils parlent de violence. Les Palestiniens ne parleront jamais de violence dans la mesure où ils ont toujours considéré que cette protestation était pacifique. Mais des protestations qui, avec des jeunes qui s'approchaient de la frontière, qui lançaient des ballons incendiaires.
C'est ça, ouais.
Voilà. Donc, je crois que c'est véritablement ça qui compte, en fait. C'est la manière dont ce mouvement s'est indexé avec les négociations et les pourparlers du Caire.
Et ballons incendiaires ou cerfs-volants enflammés qui, effectivement, parallèlement aux manifestations, sont peut-être un moyen de pression. Quelque chose qui existait déjà il y a quelques années, ce sont les roquettes qu'on a vu réapparaître avec des tirs le 15 mars, ce qui a occasionné une réponse assez forte de Tsahal sur une centaine de cibles à Gaza. Il y a eu plusieurs hypothèses sur qui pouvait avoir lancé cette roquette, faction dissidente du Hamas ou djihad islamique, donc qui est financée en grande partie par l'Iran. Est-ce qu'on en sait plus déjà sur cette roquette et quelle interprétation vous en faites sur ces roquettes?
Ces roquettes, tout simplement, il faut les entendre. Enfin, il faut réinscrire ces affrontements violents armés dans un continuum avec justement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les négociations, les pourparlers du Caire et la marche. C'est-à-dire que je crois qu'il faut les voir comme un ultime stade, une étape supplémentaire.
C'est-à-dire se poser en acteur militaire, tout simplement.
Se poser en acteur militaire pour obtenir la même chose que ce qu'on essaye d'obtenir à travers la marche ou les pourparlers, c'est-à-dire la levée ou l'assouplissement du blocus. Donc lorsque vous avez des pourparlers qui piétinent au Caire, lorsque finalement la marche, justement, les acteurs palestiniens ont l'impression que finalement elle n'est plus contraignante pour Israël ou elle n'apparaît plus comme un moyen de pression suffisamment efficace, on a recours à la lutte armée et la violence armée. Donc, en ce sens, ça confirme tout à fait ce que Clausewitz appellerait la continuation de la politique par d'autres moyens.
Donc pour vous, peu de doute que ce soit effectivement le Hamas qui ait lancé cette roquette, même si officiellement il ne le dira jamais. C'est pour ça que je disais faction dissidente. Il y a même eu cette hypothèse de la foudre parce qu'à une époque, je crois en fin 2018, il y a effectivement la foudre qui avait déclenché un tir de roquette.
Alors là, ouais. Justement, alors on ne parle pas de la foudre, mais on parle justement pour la fameuse roquette qui a touché une colonie au nord de Tel Aviv. Le Hamas a immédiatement fait appel aux Égyptiens pour expliquer aux Israéliens finalement qu'il s'agissait d'une erreur, parce que finalement on était dans une opération de maintenance et la roquette est partie malencontreusement vers Tel Aviv. Donc là encore, on voit bien qu'il s'agit finalement d'une forme de dialogue. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs les Palestiniens qui parlent de dialogue du feu, hiwar en-nar, pour dire finalement... on est là dans quelque chose, un échange. Voilà, on est dans une autre forme d'échange. Donc là, quelque part, le Hamas voulait montrer peut-être justement à sa population et aux autres factions qui faisaient preuve de force en envoyant une roquette vers Tel Aviv, ce qui est inédit depuis 2014. Mais il s'est immédiatement excusé auprès des Israéliens en disant finalement il s'agit d'une erreur, c'était une opération de maintenance. Et d'un autre côté, les Israéliens font un peu la même chose puisqu'ils ont, vous le disiez tout à l'heure, bombardé la maison d'Ismaël Haniyeh, bombardé aussi le quartier général de la sécurité du Hamas. Et ils l'ont fait largement apparaître dans les médias comme quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui allait vraiment porter atteinte au Hamas, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de grand-chose, même sur le plan symbolique. Alors on peut parler de oui, c'est ça, d'un désastre symbolique pour Haniyeh, mais et encore, ce n'est pas grand-chose. Donc,
ce qui n'a pas empêché Haniyeh d'être présent en manifestation, d'ailleurs, le lendemain ou le surlendemain.
À fait. Donc des deux côtés, on voit bien que ces acteurs politiques, finalement, parce qu'ils font face à des difficultés aussi sur leur scène respective intérieure, veulent donner l'impression à leur public d'être dans une surenchère et d'être vraiment dans un rapport de force avec son adversaire, alors qu'il n'en est rien, puisque les deux acteurs, finalement, cherchent l'un comme l'autre à rétablir le calme, obtenir une trêve et faire cesser tous les affrontements.
Et alors, dernière chose, est-ce que le calcul politique du Hamas est le bon, à savoir, sachant qu'il est un peu coincé entre Netanyahou, qui a l'échéance des élections et qui, sans doute, ne peut pas lâcher beaucoup, beaucoup de lest non plus sur Gaza, qui est obligé de prendre une posture très forte, hein, il parle d'une offensive de grande ampleur toujours prête, et puis en même temps, la population gazaoui qui a manifesté contre la vie chère, elle-même liée au blocus, entre le 15 et le 17. Est-ce que le Hamas n'est pas pris en tenaille de toute façon ?
Si, bien sûr, vous avez raison, le Hamas est totalement pris en tenaille et vous avez raison de le rappeler, les protestations qu'il y a eu la semaine dernière et qui ont été réprimées par le mouvement. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose de complètement inédit. On se souvient en 2017 que les Gazaouis s'étaient déjà mobilisés contre les coupures, les ruptures d'électricité. Là, on est dans une protestation similaire, hein, c'est-à-dire que les Gazaouis reprochent aussi au Hamas de ne pas avoir réussi à obtenir un quelconque assouplissement du blocus jusqu'à présent et le Hamas à chaque fois réprime par la force ses mobilisations. Et à ce titre, on peut aussi rapprocher ces protestations de la marche du retour puisqu'on voit que certaines factions palestiniennes ont reproché au Hamas cette répression notamment du 14 mars dernier, et pour justement manifester leur mécontentement vis-à-vis du Hamas, ont boycotté les marches du retour. Donc on voit bien aussi comment la marche du retour est intimement connectée à la politique intérieure, en tout cas sur la scène nationale gazaoui pour le Hamas.
Bon, bah évidemment, ce sera à suivre. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications. Aujourd'hui, Laïla Sera, chercheuse associée aux séries Sciences Po et auteure du Hamas et le Monde aux éditions CNRS en 2015. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque soir sur France Culture à 22h15, Matière à penser. Cette semaine en compagnie d'Antoine Garapon.
Dans un monde en pleine transformation, inquiet et violent, le droit est un repère, c'est une boussole qui nous oriente. Il est aussi une matière à penser, c'est ce que j'essaierai d'approfondir avec vous tous les soirs.
Ils œuvrent dans l'ombre, qu'il s'agisse du renseignement militaire ou civil, de la lutte contre le terrorisme ou la criminalité financière, des écoutes ou du fichage informatique. Agents secrets et services du renseignement, matière à penser cette semaine à 22h15 et sur franceculture.fr. France Culture présente Roméo et Juliette dans le cadre du festival Chic Nice. La tragédie incontournable de Shakespeare vous est proposée dans une version jeune, intime et résolument contemporaine. Grâce à une mise en scène épurée et décapante signée Irina Brook, la puissance du texte apparaît plus limpide que jamais. Roméo et Juliette, du 3 au 10 avril au Théâtre National de Nice. Un partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins. Mais avec vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Les problèmes déontologiques aujourd'hui, a-t-on le droit de mentir pour défendre le président ?
Alors depuis hier, depuis la nomination de Sibeth Diaye au poste de porte-parole du gouvernement, l'une des phrases prononcées par cette femme en ressurgit. Alors elle est ultra commentée, vous la connaissez probablement, elle affirmait en substance être prête à mentir pour défendre le président, phrase qu'elle estime sortie de son contexte. Est-il légitime en politique de mentir pour défendre un président ou plus généralement une politique ? Eh bien, c'est probablement l'une des plus vieilles controverses. Des rayons entiers de bibliothèques ont été surchargés grâce à ce sujet, notamment une controverse entre Benjamin Constant et Emmanuel Kant. Elle a été analysée par May Le Camp. Cette controverse est à l'origine de deux conceptions radicalement distinctes de la politique, sans que l'on puisse dire que l'une est progressiste, tandis que l'autre se serait populiste, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour Benjamin Constant, auteur d'Adolphe mais aussi grand penseur du libéralisme, tout le monde a le droit de mentir, et notamment les politiques, mais pas n'importe quand. C'est ainsi que Constant écrit, je le cite, « Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de manière absolue et isolé, rendrait toute société impossible. Dire la vérité est un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir? L'idée de devoir est inséparable de celle des droits. Un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre. Là où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Or, nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. » Alors pour le philosophe Emmanuel Kant, au contraire, le mensonge est la manière la plus dissolvante pour la société. C'est ainsi que Kant lâche la plus grande transgression du devoir de l'homme envers lui-même, considéré uniquement comme être moral, et le contraire de la véracité, le mensonge. En fait, Kant condamne absolument le mensonge pour trois raisons. En premier lieu, si quelqu'un ment, il n'est plus crédible et l'existence même de la société repose sur le fait que les autres sont crédibles. En outre, un devoir peut exister sans qu'il y ait un droit symétrique, ce qui signifie que je peux avoir le devoir de la vérité sans qu'autrui ait nécessairement droit à toute la vérité. Enfin, selon Kant, personne n'a le droit de choisir parmi les hommes entre ceux qui ont droit à la vérité et ceux qui vont devoir faire avec le mensonge. Alors qui choisir entre Kant et Constant? Eh bien, si vous voulez mon avis, je crois bien que tous les politiques qui refusent le mensonge au nom de Kant sont de secrets disciples de Benjamin Constant.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et oui, il y a aussi un lien entre le mensonge mafieux et l'invité du jour, Roberto Saviano. Il publie ce jeudi la suite très attendue de son premier roman dans lequel il continue de lutter contre les mensonges mafieux, les mécanismes mafieux qui gangrènent son pays. Roberto Saviano publie Baiser féroce aux éditions Gallimard. Il sera notre invité aux environs de 7h40. Et en attendant, bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu, car il est 7h sur France Culture.